Vous écoutez, on lit pour vous.
Une étudiante conçoit un chandail pour des patients hospitalisés. Un texte d'Arzuma Compaoré, paru le 16 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. Madison Torrey, une étudiante en troisième année à l'Université de Calgary, a conçu un chandail qui apporte chaleur, confort et dignité aux patients qui reçoivent des traitements intraveineux. Madison Torrey est la fondatrice de Hug and Spoons Company. Son innovation est le fruit d'une expérience très personnelle. Dès l'âge de 5 ans, elle a passé de longs moments à l'hôpital en raison d'une malformation cardiaque qui a nécessité une opération à l'âge de 13 ans. Un parcours semé d'embûches. Ses problèmes de santé ont déclenché chez elle un syndrome de stress post-traumatique médical sévère, menant à un lupus, une maladie auto-immune diagnostiquée lorsqu'elle avait 16 ans. Le lupus a entraîné des traitements hospitaliers lourds et des perfusions intraveineuses mensuelles. L'étudiante se souvient des frissons intenses causés par les médicaments réfrigérés alors qu'elle était contrainte de porter une chemise d'hôpital ou un simple T-shirt. Elle avait alors le sentiment de perdre son identité entre les murs de l'hôpital. La naissance du chandail Hug. C'est cette frustration et le désir de retrouver un sentiment de normalité qui l'ont poussée à créer le chandail à capuchon Hug. Citation : Il ne s'agit pas seulement de garder les gens au chaud et d'apporter un confort physique. Il s'agit de donner aux personnes atteintes de maladies chroniques quelque chose qui les aide à se sentir un peu plus elles-mêmes. Fin de citation, Madison Torrey, fondatrice de Hug & Spoon Company. Le chandail à capuchon Hug a été méticuleusement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des patients et faciliter le travail du personnel soignant. Il permet aux infirmières d'accéder complètement aux bras et à la poitrine du patient, facilitant l'installation des lignes intraveineuses, la prise de tension artérielle, la mise en place d'électrocardiogrammes ou encore l'allaitement. Madison Torrey explique que la conception du chandail repose sur une compréhension approfondie des besoins des patients. Plutôt que des fermetures à glissière qui sont souvent difficiles à manipuler pour les personnes souffrant de problèmes articulaires, le chandail est muni de boutons pression. En outre, inspiré par la mode urbaine, le design du chandail fait qu'il est à la fois ample et confortable, idéal pour l'extérieur, mais aussi pour se reposer au lit. L'importance du Hunter Hub. Étudiante en sciences de la santé, Madison Torrey avait le bagage médical, mais il lui manquait l'expertise pour financer son projet ou trouver un fabricant. Le Hunter Hub de l'université a alors joué un rôle important puisque cela lui a permis de rencontrer des mentors et du soutien. Elle y a rencontré Andrés Pour Amadi, un étudiant en art de l'Université de Calgary qui avait déjà sa propre entreprise de broderie. Guy Lévesque, directeur général du Hunter Hub, explique que l'objectif du Hub est d'outiller et d'équiper les membres en les mettant en contact avec des experts en affaires, en marketing et en finance. Guy Lévesque précise que ce centre, dont le nombre de membres est passé d'une cinquantaine à 300 en un an, prouve le dynamisme entrepreneurial à Calgary. La créatrice a initialement envisagé de recourir à des fabricants étrangers, mais a finalement opté pour un fabricant canadien, privilégiant les normes éthiques de travail et la proximité. Avec 150 précommandes, Madison Torrey cherche désormais des entreprises commanditaires pour acheter des chandails à capuchon Hug afin de les donner aux patients et aux hôpitaux. C'était « Une étudiante conçoit un chandail pour des patients hospitalisés », un texte d'Arzuma Compaoré, paru le 16 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Quel avenir pour le transport adapté à Shawinigan? Un texte d'Alexandra Fortin et Valérie Gendron, paru le 14 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. À la suite de l'annonce de la fermeture de l'entreprise Belmar Taxi, la ville de Shawinigan et ses partenaires mettent tout en œuvre pour assurer la continuité du service de transport adapté. Avec une dette de près de 700 000 $, Belmar Taxi a mis la clé sous la porte, devant du même coup cesser ses activités dès le 15 juillet. Elle était toutefois la seule entreprise à pouvoir offrir un service de transport adapté. Pour le moment, Shawinigan n'a pas d'alternative officielle à offrir à cette clientèle, mais elle multiplie les relances pour trouver des solutions à court, moyen et long terme. Des efforts déployés dans un contexte difficile, alors que les chauffeurs d'autobus de la ville sont en grève depuis le 19 juin dernier. Le but est d'éviter qu'il y ait un bris de service. Les gens du transport collectif de Maskinongée sont déjà au travail actuellement. On espère être en mesure de respecter les ententes qui avaient lieu pour cette semaine, explique le maire de Shawinigan, Michel Anger. Plusieurs avenues possibles. Aucune annonce officielle n'a été effectuée pour le moment, alors qu'une rencontre est prévue prochainement entre les chauffeurs d'autobus et l'employeur, un sous-traitant, l'entreprise Fleur de Lys. Il faut que ce soit des entreprises qui soient spécialisées dans le domaine, qui ont leur carte de compétences, dit Michel Anger. M. Anger faisait référence récemment aux histoires problématiques qui se sont déroulées par le passé, en lien avec la sécurité de certains usagers des transports adaptés. Un appel d'offres devrait être effectué afin de collaborer avec une entreprise qui est en mesure de répondre aux règles sévères que le transport adapté mérite d'avoir, a rappelé le maire. L'entreprise Lynx Taxi a, pour sa part, signalé son intérêt à offrir un service de transport adapté. « On est déjà prêt à offrir notre service. On a deux véhicules qui sont équipés pour le transport adapté », explique le président-directeur général de Lynx Taxi, Ahmed Eldarche. M. Eldarche compte répondre à l'appel d'offres si elle vient à être lancée. C'était « Quel avenir pour le transport adapté à Shawinigan ?» un texte d'Alexandra Fortin et Valérie Gendron, paru le 14 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Demeure-toi, financement et arguments, un texte de Pierre-Luc Fréchette, paru le 15 juillet 2025 dans le journal Le Soir. En tant que personne autiste et avocat, je suis très surpris des propos du député provincial Stéphane Sainte-Croix concernant le financement des services de Demeure-toi. Il y a plusieurs erreurs factuelles qui sont avancées avec une telle certitude que l'on peut raisonnablement se demander si le député a été mal informé ou s'il a décidé de mentir dans une stratégie de poudre aux yeux et de dénigrement de l'organisme. Personnellement, je crois que son indignation est sincère, mais qu'il a fait le choix de ne pas s'informer dûment et diligemment. Avant d'insinuer publiquement que l'organisme se comporte de mauvaise foi dans cette affaire, le député aurait mieux fait de poser des questions. Après tout, il est bien entouré et connecté et peut aller chercher les connaissances qu'il n'a pas. On ne devient pas Joe connaissant le lendemain d'une élection gagnée. Pour rappel, Demeure-toi porte un projet de 11 logements pour personnes autistes en plein centre-ville de Gaspé. Le projet a mis plusieurs années à se former. Le coût du projet est de 9 millions de dollars, une somme importante amassée grâce à la générosité des résidents de Gaspé, mais aussi du gouvernement fédéral et du ministère provincial de l'Habitation. Autrement dit, le réseau de la santé, le CIS régional, n'a pas contribué à cette somme. Aujourd'hui, à la veille de l'entrée des locataires, le CIS évalue leurs besoins, grosso modo, à un financement de 5 000 $ par personne par année. L'organisme évalue plutôt ses besoins à 25 000 $ et retarde son ouverture en attente d'un financement qu'il juge adéquat. Précision. Voici donc les propos qui m'ont fait bondir et sur lesquels je souhaite intervenir. 1. Les critères de financement sont connus depuis belle lurette et sont normés. Le ministère ne fera pas fi de ses propres règles pour répondre à un besoin estimé non reconnu. L'évaluation des besoins des locataires autistes n'est pas normée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S. Celui-ci n'a pas de normes ni de cadre de référence pour le logement communautaire pour personnes autistes. La méthode d'évaluation des besoins, c'est à la discrétion du CIS. 2. L'ISO-SMAF est un système d'évaluation de profil 1 à 14 pour évaluer l'autonomie résidentielle et est donc la bonne méthode d'évaluation. L'ISO-SMAF est la méthode principale d'évaluation d'autonomie résidentielle dans la province pour les personnes aînées. L'évaluation a été conçue et est utilisée pour cette clientèle. Capacité physique et la mémoire pour caricaturer. Rien à voir avec les besoins des personnes autistes en matière d'autonomie résidentielle. Le Québec a développé dans les dernières décennies une expertise de pointe sur l'autisme qui est reconnue à l'international. Cette expertise a même été institutionnalisée et plusieurs ressources sont accessibles pour s'éduquer. Je n'en nommerai que deux qui offrent du contenu audiovisuel si le député n'aime pas trop la lecture. L'IU dit TSA et le RNETSA. L'autisme est de nos jours connu, mais toujours incompris. Le réseau électrique qu'est le cerveau fonctionne différemment. La personne expérimente de l'hyposensibilité et de l'hypersensibilité pour certains stimuli, lesquels, ça varie d'une personne à l'autre, qui peuvent être sensoriels ou socio-interactifs. S'il n'y a pas de service adressant de façon personnalisée ces sensibilités, la personne expérimente alors un neuro-crash, un burn-out, un meltdown ou un shutdown, ce ne sont pas des synonymes. Un coup bas. En fait, pour les personnes ayant une connaissance minimale et de l'autisme et de l'ISO-SMAF, il est évident qu'il y a une inadéquation, que ce n'est pas le bon outil. Non seulement il n'y a pas de débat à ce sujet au sein des experts en autisme, je dirais que cette association, Autisme et ISO-SMAF, est tout à fait honteuse. Je pense que nos experts au Québec et les autres CIS auraient honte de cette position de notre CIS régional. Il n'y a donc rien d'étonnant pour moi qu'avec l'ISO-SMAF, les futurs locataires autistes ont scoré bas, ce qui permet au CIS d'envoyer des pinottes à l'organisme. Si l'organisme prend les pinottes, il devra peut-être fermer dans quelques années. Pour tout l'argent investi, pour tout le potentiel que contient le projet pour notre communauté, il faudrait peut-être s'y intéresser un peu plus. Posez quelques questions, monsieur le député. Pour résumer, ce n'est pas vrai que le CIS n'a pas le choix, qu'il suit les règles du ministère, qu'il a évalué de façon compétente et scientifiquement acceptable les besoins des locataires. Ce n'est pas vrai que l'organisme est opportuniste et nous fait un coup sous la ceinture. C'est plutôt le CIS et le député qui sont en train de faire un coup bas à l'organisme et surtout, aux personnes autistes concernées. Parlant de faits, si vous l'avez manqué, le PDG du CIS a récemment annoncé qu'il avait 10 millions à chercher pour son exercice budgétaire. je présume, qu'il va devoir couper là où il peut, c'est-à-dire là où ça ne fera pas trop de vagues. C'était « Demeure-toi, financement et arguments », un texte de Pierre-Luc Fréchette, paru le 15 juillet 2025 dans le journal Le Soir.
Des bébés naissent avec l'ADN de trois personnes, un texte de la presse canadienne, paru le 17 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. 8 bébés en bonne santé sont nés au Royaume-Uni grâce à une technique expérimentale qui utilise l'ADN de 3 personnes pour aider les mères à éviter de transmettre à leurs enfants des maladies rares dévastatrices. La plus grande partie de l'ADN se trouve dans le noyau de nos cellules et c'est ce matériel génétique, hérité en partie de la mère, en partie du père, qui fait de nous qui nous sommes. Éviter des mutations dangereuses. Il existe également de l'ADN en dehors du noyau cellulaire, dans des structures appelées mitochondries. Des mutations dangereuses à cet endroit peuvent provoquer chez les enfants toute une série de maladies pouvant entraîner une faiblesse musculaire, des convulsions, des retards de développement, une défaillance des organes vitaux et même la mort. Des tests effectués pendant le processus de fécondation in vitro permettent généralement de détecter la présence de ces mutations. Mais dans de rares cas, cela n'est pas évident. Les chercheurs ont mis au point une technique qui tente d'éviter ce problème en utilisant les mitochondries saines d'un ovule provenant d'une donneuse. Cette méthode implique que l'embryon possède l'ADN de 3 personnes, celui de l'ovule de la mère, celui du sperme du père et celui des mitochondries du donneur. Elle a nécessité une modification de la législation britannique en 2016 pour être approuvée. Elle est également autorisée en Australie, mais pas dans de nombreux pays, dont les États-Unis. En 2023, les premiers bébés sont nés grâce à cette méthode qui consiste à prélever le matériel génétique de l'ovule ou de l'embryon de la mère, puis à le transférer dans un ovule ou un embryon de donneuse contenant des mitochondries saines. Ces dernières recherches marquent une étape importante, a déclaré le Dr. Zev Williams, directeur du Columbia University Fertility Center. Citation : L'élargissement de l'éventail des options de reproduction, ELIPSE, permettra à davantage de couples de mener à bien une grossesse sûre et saine. Fin de citation. Des experts de l'Université de Newcastle au Royaume-Uni et de l'Université Monash en Australie ont rapporté dans le New England Journal of Medicine, en anglais, qu'ils avaient appliqué cette nouvelle technique à des embryons fécondés provenant de 22 patientes, ce qui a finalement donné la vie à 8 bébés qui semblent exempts de maladies mitochondriales. Une de ces patientes n'a par ailleurs pas encore accouché. L'un des 8 bébés présentait des niveaux légèrement supérieurs à la normale de mitochondries anormales, indique Robin Lovell-Badge, scientifique spécialisé dans les cellules souches et la génétique du développement à l'Institut Francis Crick. Il explique également que ce niveau n'était pas encore considéré comme suffisamment élevé pour provoquer une maladie mitochondriale, mais qu'il devait être surveillé au fur et à mesure du développement du bébé. Le docteur Andy Greenfield, expert en santé reproductive de l'Université d'Oxford, qualifie ses travaux de triomphe de l'innovation scientifique. Il ajoute que la méthode d'échange de mitochondries ne serait utilisée que pour un petit nombre de femmes pour lesquelles les autres moyens d'éviter la transmission de maladies génétiques, comme le dépistage précoce des embryons, ne sont pas efficaces. M. Lovell-Badge a souligné que la quantité d'ADN provenant du donneur était insignifiante, soulignant que l'enfant qui en résulterait n'aurait aucun trait de la femme qui a donné les mitochondries saines. Le matériel génétique provenant de l'ovule donné représente moins de 1% du bébé né par cette technique. Si vous avez subi une greffe de moelle osseuse provenant d'un donneur, vous aurez beaucoup plus d'ADN provenant d'une autre personne, explique-t-il. Au Royaume-Uni, tous les couples qui souhaitent avoir un enfant né grâce à un don de mitochondries doivent être approuvés par l'autorité de réglementation de la fertilité du pays. À ce jour, 35 patientes ont été autorisées à recourir à cette technique. Les détracteurs de cette méthode ont déjà fait part de leurs inquiétudes, arguant qu'il est impossible de connaître l'impact que ce type de technique novatrice pourrait avoir sur les générations futures. Dans les pays où cette technique est autorisée, ses défenseurs affirment qu'elle pourrait constituer une solution prometteuse pour certaines familles. C'était « Des bébés naissent avec l'ADN de trois personnes », un texte de la presse canadienne paru le 17 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Des centaines de foyers non conformes. Un texte d'Olivier Picard paru le 17 juillet 2025 dans la presse. Plus de la moitié des résidences pour aînés, RPA, nouvellement assujetties à un règlement les forçant à installer un système anti-fugue, n'en ont toujours pas, selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA. Cette réglementation entre en vigueur au moment même où la police vient de révéler l'identité de Sylvie Saint-Denis, sexagénaire atteinte d'Alzheimer, qui avait fugué de sa résidence de Terrebonne et qui est morte à la mi-juin dans un boisé. Quelque 55 % des RPA qui ont de la clientèle de catégorie 3, des aînés semi-autonomes qui ont besoin d'accompagnement médical, n'ont toujours pas de système de sécurité aux portes, selon des données analysées par le RQRA. En clair, 587 résidences sur 1060 n'en ont pas encore installé et 473 en possèdent. En principe, ces résidences avaient jusqu'au 15 juillet pour mettre ces mesures en place, quel que soit l'état de santé de leurs résidents, selon le règlement sur la certification des résidences privées pour aînés. Les données de Santé Québec indiquent que 50 RPA de catégorie 3 n'ont pas installé de tels systèmes, tandis que 178 en possèdent, souligne la porte-parole Catherine Brousseau. Cependant, ces chiffres semblent couvrir uniquement les résidences qui accueillent actuellement des aînés à risque d'errance. Seul un quart, 22 % des RPA de catégorie 3 hébergent actuellement des usagers à risque d'errance, explique Hans Brouillette, directeur des relations gouvernementales au RQRA. Cependant, le nombre de cas d'errance évolue fréquemment et rapidement dans une résidence, reconnaît M. Brouillette. Ça peut varier d'un mois à l'autre, indique M. Brouillette. S'il y en a, ils sont en attente d'être relocalisés en CHSLD, mais ils ne peuvent pas rester en RPA. Techniquement, les RPA n'ont pas pour vocation d'accueillir une clientèle à risque d'errance, car elle constitue un domicile et non un milieu de soins de santé, précise M. Brouillette. Elles le font tout de même, comme les places dans le réseau public de santé sont limitées et que les listes d'attente en CHSLD sont longues. Ce règlement, qui obligeait les RPA à instaurer des mesures de sécurité, était déjà en place depuis 2023 pour les unités de catégorie 4, qui héberge de la clientèle en plus grande perte d'autonomie. Pourtant, selon Santé Québec, 57 RPA de catégorie 4 n'ont toujours pas installé de tels dispositifs de sécurité, tandis que 219 en sont dotés. Les RPA pas nécessairement adaptés. Le nouveau règlement est imprécis, estime Hans Brouillette. Ça n'a pas d'allure d'imposer quelque chose de mal défini. C'est comme si on disait « faites quelque chose et on verra si ça convient ou pas », déplore-t-il. Ainsi, illustre-t-il, les RPA mettent en place des dispositifs de sécurité aux portes sans pouvoir statuer si cela concerne des aînés de leur établissement. Pour nous, cette réglementation-là a été rédigée davantage dans un but politique et réputationnel que par égard pour le respect même des aînés, dit-il. Comme RPA, je n'ai pas de droit qui m'est conféré par le gouvernement d'établir qu'une personne fait de l'errance, souffre de problèmes cognitifs, et en même temps, je dois appliquer un contrôle des sorties, explique M. Brouillette, qui y voit une incohérence importante. En plus de dénoncer le flou autour des dispositifs de sécurité, il ajoute que les coûts seraient plus élevés que prévu. Il en coûterait 40 millions aux RPA concernés pour installer de tels dispositifs dans leurs immeubles, indique M. Brouillette. On ne veut pas revivre les gicleurs 2.0, lance M. Brouillette. Après la tragédie de l'île verte, Québec avait en effet imposé aux RPA d'installer des gicleurs. Des résidences avaient eu du mal à se conformer à cette réglementation qui entraînait des frais importants. Des centaines d'entre elles avaient fermé leurs portes. Le règlement sur les mesures de sécurité pourrait d'ailleurs être modifié prochainement, soutient M. Brouillette. Un projet de révision réglementaire est en cours pour l'entièreté de celui-ci, puisqu'il serait inapplicable de manière concrète. Il affirme que plusieurs personnes du cabinet de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, lui ont souligné verbalement qu'il n'y aurait pas, pour l'instant, d'avis de non-conformité délivré à l'endroit des RPA n'ayant pas installé les dispositifs de sécurité. Santé Québec nous a pourtant indiqué par courriel que des avis de non-conformité peuvent être émis en cas de non-respect d'un règlement. Des aînés qui prennent la fuite. Récemment, la police a révélé l'identité d'une sexagénaire retrouvée morte à la mi-juin dans un bois de Terrebonne. Sylvie Saint-Denis, qui souffrait d'Alzheimer, de diabète et de démence, était logée au pavillon des Mille-Îles, une RPA composée de deux ailes sécurisées. De toute évidence, cette résidence n'est pas munie d'un système de sécurité suffisant pour les personnes atteintes d'Alzheimer. On accueille donc des gens dans des lieux qui ne sont pas adaptés, dénonce Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, CPM. Ce n'est pas la première fois qu'un aîné hébergé en résidence fugue et connaît un destin funeste. En décembre 2022, une dame d'Actonville avait fugué de sa résidence tôt dans la matinée et avait été retrouvée sans vie dans une rivière trois jours plus tard. Ses proches ont affirmé que celle-ci fuguait de manière cyclique, selon un rapport du coroner obtenu par la presse. En décembre 2020, une femme de 94 ans de Rivière-du-Loup est morte d'hypothermie après avoir fugué de sa résidence durant la nuit. Le rapport du coroner indique que la dame souffrait de troubles cognitifs et que toutes les portes de sa résidence étaient verrouillées à l'aide d'un code qu'à peu près tout le monde connaissait, incluant de toute évidence Madame X. C'était « Des centaines de foyers non conformes », un texte d'Olivier Picard paru le 17 juillet 2025 dans la presse.